Chapitre 13. Jour ténébreux. Philippe avait quelques fonds placés dans la banque des Foster, et il épuisa chez eux son crédit. Il alla même jusqu'à solliciter d'eux quelques avances, à leur grande surprise et à leur grande consternation. Mais il fallait à tout prix organiser la défense de Daniel Robson, avant l'ouverture des assises d'York. Belle, de son côté, ramassant de droite et de gauche tout ce qu'elle pouvait emprunter, versait à mesure dans les mains de Philippe les menues sommes qu'elle se procurait ainsi, et se figurait l'avoir placée à la tête d'un trésor. Les économies de Kester avaient de même été remises à Philippe, et ce, nonobstant les arrière-pensées de l'honnête valet de ferme qui n'aimait guère ce nouveau patron, n'avait aucune confiance en lui, et le soupçonnait presque d'employer à soutenir le crédit naissant de sa maison toutes ces sommes énormes, selon Kester, qu'il voyait fondre dans ses mains. Pauvre Philippe, être l'objet de pareille méfiance au moment où il dépensait tout son avoir et au-delà sans le dire à personne et en recommandant le secret à ses banquiers. Nous venons de dire que Kester n'aimait pas Philippe. Peut-être bien à son insu était-il jaloux de l'ascendant que le jeune cousin prenait peu à peu sur Sylvia. Sentiment bizarre en lui-même, plus bizarre encore par la manière dont il s'exprimait. Kester, effectivement, s'était pour ainsi dire constitué le gardien de la fidélité que Sylvia devait, selon lui, à son fiancé, défunt ou non. Un jour, qu'il la lui rappelait en termes assez rudes, il provoqua chez la jeune fille une telle explosion de désespoir mêlée de rancune qu'il se vit réduit à implorer humblement son pardon. « Si tu n'étais pas Kester, lui dit-elle fléchissant enfin, je garderais un éternel souvenir de tes cruelles paroles. Dans ce moment-ci, vois-tu, je te hais. Mais, après tout, je ne saurais faire que tu ne sois pas le bon vieux Kester d'autrefois. Et comment alors te refuser mon pardon ? » Tout en parlant ainsi, elle s'était rapprochée de lui. Kester prit entre ses mains calleuses la petite tête de Sylvia et la baisa doucement au front. Elle le regarda, les yeux encore pleins de larmes, et lui dit avec un accent moins irrité. « Ne me rappelle jamais ces choses. « Vois-tu bien, ne prononce jamais le nom de... »« Je me couperai plutôt la langue, » interrompit-il. Et il tint parole. Philippe, dans toutes ses allées et venues qui le rappelaient fréquemment à la ferme, ne reparlait plus de son amour. Il avait l'attitude, le langage du frère le plus tendre, mais rien au-delà. Ses craintes, toujours croissantes, ne lui laissaient pas d'autre alternative. Les prévisions de Maître Duncan ne se trouvait que trop vérifié. Le gouvernement avait pris à cœur l'affaire du rendez-vous, et semblait regarder comme absolument nécessaire que l'on fît enfin prévaloir une autorité trop souvent bravée. Ses agents inférieurs, charmés d'être soutenus, rivalisaient de zèle afin qu'un exemple saisissant vînt terrifier les fauteurs de rébellion. À cet exposé menaçant, l'avocat chargé de défendre Daniel Robson ajoutait des détails qui venaient augmenter encore les craintes de Philippe. Daniel s'obstinait à ne pas comprendre les périls de sa situation. Il semblait vouloir se perdre, de propos délibérés, par mille récriminations insensées contre les excès de la Press Gang et surtout contre l'odieux stratagème dont elle avait fait usage à Monkshaven, dans cette nuit fatale où s'étaient commis les désordres qu'on l'accusait d'avoir provoqués. Un pareil système de défense devait exaspérer les magistrats et peut-être, cela s'était vu, faire interdire la parole aux représentants de l'accusé. Philippe se gardait bien de communiquer ces navrants détails aux deux femmes dont il s'était constitué le protecteur. La santé de Belle allait s'affaiblissant tous les jours, et un voyage de 20 000, comme celui d'York, était, lui disait-on, au-dessus de ses forces. Il ne fallait y songer pour elle que dans le cas le plus extrême, si son mari venait à être condamné. Sylvia et Philippe, sur ce point, s'étaient mis tacitement d'accord, et le jeune homme, avant de quitter Monkshaven pour se rendre à l'ouverture des assises, prépara d'avance ce voyage suprême, en vue des circonstances qui pouvaient le rendre nécessaire. On obtint par lui des nouvelles du prisonnier. Elle n'avait rien de désespérant. Daniel, quoiqu'un peu souffrant, ne perdait pas courage. Il poussait même ce courage jusqu'à la témérité, répétant volontiers à tout propos qu'il ne se repentait de rien et se conduirait de même dans des circonstances analogues. Les assises allaient s'ouvrir le 12 mars, un dimanche, mais le sort de Robson ne se déciderait que le mardi suivant. À compter de la lettre qui renfermait ces détails, les deux femmes commencèrent à trouver le temps bien long, et le dimanche venu, elles allèrent ensemble offrir leurs prières à celui dont la miséricorde infinie pouvait encore servir de bouclier au malheureux accusé. Après le service, et comme elles s'en revenaient lentement l'une auprès de l'autre, sous la froide bise de mars, Belle s'assit, épuisée de fatigue, sur le talus d'une haie. Sylvia, incapable de se taire plus longtemps, et cédant à un irrésistible besoin d'expansion, lui fit part de tout ce qu'elles avaient à craindre. Sa mère l'écoutait avec moins de surprise, moins d'émotion qu'elle ne s'y était attendue. Levant tout à coup les bras vers le ciel et les laissant ensuite retomber sur ses genoux, « Dieu nous mène !» dit la pauvre femme avec une certaine solennité. « Il m'avait envoyé déjà le pressentiment de cet affreux malheur. Je ne t'en ai pas ouvert la bouche, mon enfant. C'est comme moi, mère, je ne voulais pas t'en parler parce que Philippe, d'ailleurs, a des espérances. » « Je le sais, » reprit Belle, « et d'un autre côté, il me semble que si le Seigneur m'a délivré de toute crainte, ce n'est pas pour abuser mon cœur. Il ne voudra pas rompre cette union par lui cimentée. Mes rêves m'ont dit que si Daniel venait à mourir, je ne serais pas condamné à lui survivre longtemps. Comment, lui parti, mènerais-je la maison ?»«
Mais moi, moi !» gémissait Sylvia, « tu oublies que j'existe, ma pauvre mère. Pense à ta fille, à son avenir. »
« Et me crois-tu donc capable de n'y pas songer, cher enfant ? Tu n'as donc pas deviné les soucis dont j'étais rongé l'hiver dernier au sujet de ce Kindred ? Maintenant, au contraire, que Philippe et toi vous semblez d'accord ?» Sylvia frissonna et ouvrait déjà la bouche pour répondre, mais elle n'articula pas une seule parole. « Maintenant que je sais ton sort assuré, je suis prête à suivre Daniel, si Dieu nous l'enlève. »
« Cela ne sera pas !» s'écria Sylvia, tout à coup relevée. « Cela ne sera pas ! Philippe en est convaincu !»
Belle ne répondit qu'en secouant la tête, et les deux femmes se remirent en marche, Sylvia, découragée, et en même temps presque irritée par l'abattement où elle voyait sa mère. Mais avant la nuit, Belle semblait avoir perdu de vue toutes ses tristes pensées. Cette formule « Quand ton père sera ici !» se retrouvait invariablement au début ou à la fin de tous les propos qu'elle adressait à sa fille, et celle-ci lui aurait demandé la raison de ce brusque changement si elle n'eût été avertie par un secret instinct qu'il tenait chez sa mère à un affaiblissement déjà notoire de ses facultés mentales. Comment passa le lundi, Dieu le sait, mais dès le mardi matin, à la pointe du jour, Belle était en l'air plus vive et plus joyeuse que jamais.
« C'est pour aujourd'hui, » disait-elle. « Il faut, quand il reviendra, qu'il trouve tout en bon ordre. »
« D'aucune façon, » disait Sylvia, qui n'avait pas encore quitté son lit, « nous ne devons nous attendre à le voir revenir dès ce soir. »«
Allons donc, petite, tu en es encore à savoir de quel pas revient un homme quand sa femme et son enfant l'attendent. D'ailleurs, tout ceci sera fait. »
Sylvia, de plus en plus étonnée, n'ajouta rien et se figura que sa mère s'efforçait par ce surcroît de travail d'éloigner certaines pensées sinistres. Il en fut de même pour le dîner vers midi, et Sylvia eut toutes les peines du monde à convaincre sa mère qu'il fallait attendre le retour de Kester, parti le matin pour les champs comme de coutume. Elle n'y parvint qu'en cédant à un caprice de Belle, qu'elle accompagna sur la hauteur pour tâcher d'apercevoir au loin le voyageur espéré. Une fois à table, Belle repoussa son assiette, sous prétexte qu'il était trop tard et qu'elle n'avait plus faim. Kester allait répondre que la demie était à peine sonnée, mais Sylvia, par un simple coup d'œil, lui commanda le silence, et le brave homme se remit à manger, essuyant par-ci par-là, du revers de la main, une larme dont ses yeux étaient obscurcis. « Je ne m'éloignerai pas de la journée, » dit-il tout bas à Sylvia, quand il fut sur le point de sortir. Belle Robson trouvait le temps long, et se plaignait que le soir n'arrivât point. Elle finit malgré tout par s'engourdir sur son fauteuil, et Sylvia prit toutes sortes de précautions pour ne la pas réveiller. Ce sommeil, paisible comme celui d'un enfant, dura fort heureusement jusqu'au coucher du soleil, et il n'était pas encore dissipé lorsque Sylvia, qui venait de préparer le thé de sa mère, aperçut derrière les vitres la figure de Kester qui lui faisait signe de sortir. Elle se déroba sur la pointe des pieds par l'arrière-cuisine dont la porte était restée ouverte, et en courant faillit heurter Philippe, qui, ne l'attendant pas de ce côté, lui tournait le dos. Il fit brusquement volte-face
et un simple coup d'œil jeté sur son visage suffit pour enlever toute espérance à la jeune fille. « Philippe !» s'écria-t-elle simplement, puis elle s'évanouit à ses pieds, et le bruit de sa chute retentit sur les pavés de la cour. Il voulut soulever son corps, mais dans l'état de fatigue où une longue marche l'avait laissé, cette tâche se trouva au-dessus de ses forces. Kester accourut. À eux deux, ils la portèrent dans la maison. Là, tandis que le valet de ferme allait puiser de l'eau pour la lui jeter au visage, et tandis que Philippe, agenouillé, soutenait dans ses bras la tête et le buste de la malheureuse enfant, une ombre vint se placer entre lui et le jour. Il leva les yeux et vit sa tante. Sa tante aussi digne, aussi calme que jamais. « Mon enfant, » dit-elle, s'asseyant à côté de Philippe et lui enlevant doucement son précieux fardeau. « Lève-toi, mon enfant, lève-toi. Il faut partir, partir sans retard maintenant qu'il a besoin de nous. Lève-toi. Dieu nous donnera la force. Les minutes valent des heures. Lève-toi. C'est plus tard que tu pleureras tout à loisir. » Sylvia ouvrit ses yeux voilés et reconnut la voix de sa mère. Les idées rentraient une à une dans son esprit. Elle se releva lentement et demeura debout, immobile, comme une personne étourdie par un coup violent et qui cherche à se raffermir sur ses jambes chancelantes. Puis, saisissant le bras de sa mère, elle dit d'une voix étrange et douce : « Partons, si vous voulez. Je suis prête. »